Je vais peut-être pas vous faire le topo, vous l'avez sous les yeux. En gros, le résumé, il est simple, c'est que comme le corps change, et que c'est vraiment le problème à l'adolescence, c'est-à-dire que jusqu'à 10 ans, finalement, ça changeait doucement, mais là, ça va changer brusquement, il y a les hormones, il y a plein de trucs qui viennent. Et du coup, le corps, c'est quand même le lieu de dépôt du contenant psychique, c'est-à-dire Anzieux, Didier Anzieux, un psychanalyste très important, a écrit un truc sur le moi-peau, c'est-à-dire qu'il y a un rapport entre la manière dont on habite son corps et la manière dont on habite son psychisme. Et du coup, pour l'adolescent, d'un seul coup, tous ces repères qui étaient auparavant solidement établis, surtout que à 10 ans, on a tout, à 10 ans, vous verrez les enfants de 10 ans, c'est même plus. Ils sont bien dans leur peau, ils sont dans une relation avec leurs copains, l'école, avec tout ça, c'est la fleur de l'âge, 10 ans. Et puis après, boum, ça se dégrade. À partir de 11, 12 ans, là, on commence à les voir changer. Et donc, il y a une période là où ils passent de quelque chose qui a été très établi, où ils étaient bien dans leurs repères, dans leur corps, dans les copains, les copines, à quelque chose qui bouge dans tous les sens. Et le vrai problème pour les ados, c'est justement le changement de son corps, mais pas tellement à cause du changement du corps, mais à cause du fait que le changement du corps amène un changement dans la sécurité du contenant psychique. Donc la relation avec ce corps qui change devient très ambivalente, quoi. À la fois je suis content d'avoir ce corps qui grandit, à la fois qu'est-ce que c'est que ce machin qui bouge, qui pousse, qui change. Et qui change pas forcément comme je voudrais. Il y a un sein qui pousse plus vite que l'autre. C'est bizarre, etc. Donc, ce que je vous ai indiqué et que vous allez me poser des questions dessus, c'est qu'il y a quand même trois grands moments de l'adolescence, c'est-à-dire 12-14. Là, c'est surtout marqué par le décalage entre les filles et les garçons. Pour les garçons, c'est pas évident d'être encore des petits garçons, alors que leurs copines qui avant, avec qui ils jouaient, maintenant ça devient des femelles petit à petit, qui s'amusent entre elles, qui s'accoutrent, etc. Donc du coup, il y a quelque chose un peu de mal à l'aise. C'est souvent du coup que chaque sexe se regroupe beaucoup avec ses propres copains et ses propres copines. Hein. Et il y a une espèce de difficulté identitaire qui se manifeste par un malaise avec ce corps, quoi. Que ce soit chez les filles ou chez les garçons, mais encore plus chez les garçons, parce qu'ils ont de l'acné, ils ont des trucs qui commencent comme ça et tout. Donc, là, tu as une phase 12-14 où ils sont encore très liés aux parents, et en même temps, très poussés par tout ce qui se passe à l'intérieur du corps. Donc ça bouge dans tous les sens, et il y a des changements émotionnels importants, etc. Ensuite, 15-17, l'ado commence à avoir son corps, sa stature qui commence à être un petit peu plus affirmée, et donc du coup c'est là peut-être le point le plus difficile pour la relation avec l'environnement, c'est que 15-17 c'est le moment où on va s'affirmer tout en étant encore dépendant, et recommencer à être à peu près bien dans sa peau tout en l'étant pas, être plus avec les copains qu'avec la famille, remettre en cause les règles habituelles, être plus dans la revendication. C'est le moment où il y a des premières expériences amoureuses, sexuelles. Souvent, c'est vers 16-17 ans que se passent les premières relations sexuelles. Et c'est pas simple. Parce que du coup, ils sont baignés dans, déjà, ils ont tous eu affaire maintenant, à la pornographie, par les tablettes, l'ordinateur, les smartphones des copines ou des copains, avec la difficulté à se repérer, entre leur propre désir et puis ces images problématiques. Et donc, c'est pas pour rien que certains psychanalystes comme Serge Tisseron se sont particulièrement penchés sur la question de la gestion des images et la façon dont les parents peuvent aider les enfants à trouver la juste mesure avec ça. En particulier avec les réseaux sociaux, hein. Qu'est-ce qu'on doit dire aux enfants et sur lesquels on doit insister? C'est sur trois choses particulièrement importantes. C'est ce que tu mets sur Facebook ou sur Instagram ou sur ça restera éternellement. Donc plus tard, ça risque de te poser problème. Ce que tu mets sur Facebook, tout le monde peut le voir. Et ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément la vérité. Donc ces trois choses, il faut vraiment que l'enfant et l'adolescent l'aient compris, quoi, parce que sinon, ça va devenir un problème. Donc voilà, 15-17, c'est là où ça bouge dans tous les sens, où c'est pas toujours facile pour l'environnement, mais de toute façon pas facile pour l'ado. Puis 18, ça commence à se calmer un petit peu, dans le sens que maintenant, il ou elle ont trouvé leur corps définitif. Donc, du coup, il y a quelque chose qui commence à se stabiliser au niveau du contenant psychique. Le corps étant plus assuré, moins en train de changer, désormais, il y a une recherche de son épanouissement personnel plus que d'être dans l'opposition pour se situer, quoi. Bon, vous avez tout le topo, hein, je vais pas vous le détailler, vous allez me poser des questions, mais en gros, c'est une période où de toute façon, le contenant psychique est mis à mal. Ce qui veut dire qu'il y a une tendance au passage à l'acte qui est la somatisation. Parce que ce qu'on n'arrive pas à traiter psychiquement, on le passe à l'acte. Ou dans des symptômes bizarres. Il y a beaucoup de trucs qui ont rapport avec le corps, quoi, à cet âge-là. Le corps, l'inquiétude, la difficulté à gérer l'inquiétude, tout ça, si vous voulez, c'est un peu comme si on manquait d'avoir un outil intérieur pour le traiter facilement, pour le contenir et le traiter. Donc du coup, ne pouvant pas le contenir et le traiter, ça déborde, et c'est traité par des symptômes, par des passages à l'acte, par des collages pour essayer de boucher les trous, collage avec le groupe, collage avec certaines drogues, certaines addictions, tout ça pour essayer de faire avec, quoi. Il y a une espèce de douleur permanente, d'inquiétude, de malaise, qui peut être traitée de différentes manières. Et presque tous les symptômes à l'adolescence sont une tentative de gérer la douleur psychique pas clairement gérable, quoi. Donc souvent ça consiste à se faire subir quelque chose. Je vous ai parlé des scarifications, c'est transformer la douleur psychique qu'on n'arrive pas à gérer correctement, à formaliser, etc., en une douleur physique qu'on peut maîtriser. L'anorexie mentale, c'est vouloir à tout prix empêcher ce corps de bouger et de prendre des formes. En gros, hein, bien sûr, je dis simplifie, mais il y a plein d'autres choses. Par exemple, c'est une lutte contre l'image maternelle, puisqu'on veut pas être une femme. Je ne veux pas être une femme comme ma mère. Cette grosse vache, évidemment, hein, moi qui suis toute mince. La boulimie, c'est... vouloir à tout prix étouffer les cris de douleur sous la bouffe. Boulimie vomissante, c'est à mi-chemin entre les deux. C'est à la fois étouffer la douleur et à la fois essayer de gérer ce corps pour le maintenir exactement comme on veut. C'est une puissance du mental, quoi. Et puis, il y a tout un tas d'autres... ça peut être de l'obsession, ça peut être des phobies, etc., qui sont autant de manifestations du fait que l'ado n'arrive pas à gérer ça psychiquement. Donc c'est vachement intéressant de pouvoir avoir un travail avec un psy, avec un thérapeute, voilà, c'est-à-dire de notre école, qui soit capable de formaliser ce qui se passe pour l'adolescent, lui donner du sens, et du coup, de donner une, c'est exactement tout ce que je vous ai dit depuis le début, lui, et du coup, lui donner une prise sur ce qui se passe. Alors, souvent, c'est un travail avec les parties, hein, puisque du coup, comme l'ambivalence est caractéristique de l'adolescence, ben, c'est une partie qui veut un truc et une partie qui veut le contraire. C'est très important de faire un recadrage du symptôme en particulier, que l'enfant, l'adolescent, plus exactement, s'aperçoivent que c'est pas pour rien qu'il a ça et que ça, ça a une fonction et que ben, peut-être qu'il faut faire autrement. Ça peut être aussi tout ce qui va, à partir du recadrage, tout ce qui va donner sens aux symptômes et du coup avoir une prise sur le symptôme. Et même s'il n'y a pas le sens du symptôme, c'est souvent intéressant d'avoir une prise sur le symptôme, de s'apercevoir que c'est soi-même qui le crée, donc que c'est soi-même qui peut aussi le diminuer. Et ainsi de suite. Donc les principales interventions avec les ados, ça va être quand même du style TBSI. Il faut comprendre que nous, dans notre pratique en tout cas, le travail avec les ados, c'est un travail bref et qui va leur permettre de se récupérer rapidement pour reprendre leur marche en avant, mais pas un travail psychanalytique profond. D'ailleurs, ça serait pas conseillé un travail psychanalytique à cette étape, parce que en fait, tout bouge sans arrêt, rien n'est solide, ça serait presque le mettre dans une situation délicate, quoi. Là, on va essayer de dire, alors, comment tu peux faire et comment on va y arriver pour s'en sortir ? Un truc dans ce goût-là, quoi. Ce qui fait que, très souvent, il y a des résultats spectaculaires en quelques séances. On travaillera cet après-midi avec des cas et à les jouer, les mettre en scène. Vous allez recevoir des ados de toutes sortes. Voilà. Alors bon, évidemment, comme tout ce qu'on a travaillé durant ces jours, il faudra que vous l'approfondissiez vous-même. Des lectures, et puis surtout votre expérience. Au fur et à mesure que vous recevrez, vous verrez les exemples qui vous viennent, on en reparlera ensemble en supervision, du coup vous acquérez toutes les compétences nécessaires. Mais finalement, pratiquement tout le monde ici pourra se débrouiller avec des ados, à condition de faire de la TBSI stricte. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à me demander comme question, comme remarque sur ces quatre pages-là ?
Alors, qu'est-ce qui fait que tous les ados ne passent pas à l'acte ?
Ben, oui, c'est une bonne question, parce que pourquoi ils ne passent pas à l'acte ? Ben, parce que, malgré tout, si tu veux, à défaut d'avoir un contenant psychique fiable, si tu as un contenant familial solide, fiable, d'une certaine manière, c'est un contenant. Donc, tu vas pas passer à l'acte facilement, parce qu'il y a quelque chose qui te contient, contre lequel tu vas lutter. Il faut chier avec leurs règles, il faut rentrer à telle heure, il faut aussi... Mais n'empêche que c'est vachement sécurisant. Donc, il y a toute la difficulté pour les parents et la famille, c'est d'être à la fois capable de tenir, parce que c'est vraiment bon pour l'ado de savoir qu'il y a un contenant solide, et à la fois de savoir qu'on va se faire rentrer dedans et que ça fait partie du jeu, quoi. Mais d'une certaine manière, il vaut mieux que l'adolescent ou l'adolescente soit agressif ou agressive envers la famille, les parents, les règles, etc. Parce que quelque part, c'est grâce à ces règles et à cette famille qu'il peut tenir à défaut d'avoir un contenant psychique solide, que de rien dire et puis d'aller faire des conneries à l'extérieur, quoi. Donc,
tu veux dire que l'agressivité contre la famille, c'est finalement l'équivalent des conneries qu'il va faire. Il se charge avec nous.
Absolument.
D'air plus chinois. Oui. Plutôt que d'aller chercher un bouche-trou.
Voilà. Heureusement qu'ils sont chiants.
C'est bien de le dire, parce que ça
déconforte. Ça soulage.
Tu te dis, ouf, ça
Oui, oui, non, c'est vrai, c'est heureusement qu'ils sont chiants. Ce qui est presque plus inquiétant au point de vue psychologique, c'est l'ado qui ne fait aucune crise d'adolescence, qui est bien sous tout rapport, qui continue bien dans les règles, etc., qui a fait une bonne scolarité, tout ce qu'on veut, et qui, à l'âge adulte, va décompenser. Parce que du coup, il n'a pas appris à faire avec l'ambivalence, la douleur, la remise en cause des règles, la capacité à trouver sa propre expérience. Parce que si tu veux, quand tu te heurtes à l'autre, d'une part, tu trouves des limites, et d'autre part, tu peux faire la différence entre les autres et toi. Donc, petit à petit, tu vas créer ton propre espace de pensée. Moi, je suis pas d'accord avec ces règles. Bon, je suis obligé de les supporter parce que je suis ado, mais je suis pas d'accord. Et je vais, à partir de 18, 19 ans, je vais être dans des mouvements politiques, sociaux, où je vais pouvoir mettre ma révolte, mais qui sera ma propre valeur, indépendamment de ma famille. Et c'est très bien. Sinon, je vais être une jeune fille bien rangée, je vais être une jeune femme bien rangée, qui va faire une épouse bien rangée, et je vais éclater à 30 ans, soit de l'intérieur, grave dépression, soit de l'extérieur, j'en vois tout chier, c'est incompréhensible pour l'environnement, etc.
Soit je fais un super symptôme,
éventuellement, un petit cancer, histoire
d'un petit cancer.
Cancer du sein, à défaut d'avoir utilisé mes seins autrement.
Qu'est-ce qui empêche justement le fait de ne pas faire sa crise de sein ?
Ben ça c'est difficile de dire, hein. Peut-être que les normes familiales, je sais pas, je peux pas dire. Pourquoi on le fait pas ? Je pense qu'il y a quand même une dimension d'une sorte d'énergie d'affirmation individuelle qui est différente suivant les uns et les autres. Souvent, à l'adolescence, tu rejoues quelque chose de l'enfance que tu as été. Et les enfants qui ont déjà été trop bien dans les normes peuvent être des adolescents qui sont trop bien dans les normes. Peuvent être au contraire hyper chiants parce que enfin ils sortent, ils font éclater le truc. Donc, je pense que la trace infantile, on dit souvent que l'adolescence est une deuxième donne par rapport à l'Oedipe, par rapport à tous les enjeux de entre 0 et 6 ans, hein, de la différenciation sexuelle, de vivre son corps, de s'opposer aux parents, etc.
Il y a un problème avec
le micro. Ben
oui. Il y a donc qui ment tout le temps.
Ben oui, c'est pas facile. Ben si tu veux. Ça veut dire qu'il a pas encore osé s'affronter. Il a pas encore osé s'affronter. Donc peut-être qu'il trouve un environnement trop, c'est impossible de vraiment s'affronter. Possible. Ou parce que il manque de sécurité interne. Et que du coup, il ose pas dire ce qu'il est, et ce qu'il pense, et ce qu'il fait. C'est facile, quoi, de mentir. C'est facile, mais c'est un prix lourd. Parce que du coup, tu t'affirmes pas dans ta vérité. Quelquefois, c'est parce que un des deux parents est trop, mettons le père est trop violent ou trop difficile ou parce que il veut pas faire de mal. Mais la plupart du temps, c'est plutôt par peur. Donc, on va consulter. On va aller voir une thérapeute.
C'est de l'agressivité
à défaut de, d'être une affirmation agressive. C'est pas vraiment de l'agressivité. C'est plutôt une façon de fuir. C'est une fausse agressivité, oui.
Mais si tu as un enfant, je parle de mon cas, donc je décris un peu, si tu as un enfant qui a été compliqué toute son enfance, depuis très tôt, et qui, tu vois, chez le psy, normalement, ça va mieux, et il n'y a pas de problème à l'adolescence, tu dois t'inquiéter. On est enfin tranquille, là. Il a 15 ans.
Il a 15 ans ?
Oui, mais ça a été très compliqué avant, depuis toujours.
D'accord.
Est-ce que tu te dis, il a fait sa crise d'adolescence avant, et c'était des espèces de continuum lourd, ou bien est-ce que tu te dis, il y a un truc qui va pas, on continue à avoir aussi.
À mon avis, tu te dis, attends, quand ça va péter dur, quoi. Pour le moment, il a 15 ans. Ouais. Et il dit rien, tant mieux, profite-en, parce que ça ne durera pas. Mais à 16, 17, 18, ça risque de secouer dans les branches. Et si c'est pas le cas,
il y a peut-être un truc qui n'a pas été réglé avant, finalement.
Ou non, si c'est pas le cas, il y a des risques que ça soit ailleurs, que ça soit en train de se passer. Qu'il fasse des conneries ailleurs sans que tu le saches. Bien gentil à la maison et en train de piquer des trucs avec la bande de copains, des machins comme ça.
Secours.
Je vous rassure.
Je suis plus parent.
Il vaut mieux avoir des ados chiants que pas. Que pas chiants.
Les thérapeutes de nos enfants aussi, ça faut le dire.
Oui, aussi.
Non, puis. On n'est pas les thérapeutes de nos enfants.
On n'est pas les thérapeutes de nos enfants. Si on sent que ça va pas, on va avoir un thérapeute. Ouais. Ouais.
En fait, il reste une question, puisque tu as déjà répondu à toutes les autres.
Ouais.
Concernant les rituels, tu dis dans ton topo que ceux-ci ont disparu. Tu faisais référence à quels rituels précédents ont disparu?
Ben, déjà, dans les sociétés primitives, tout le monde sait que les rituels de passage de l'adolescence sont vraiment importants. Et que... traditionnellement, et ça depuis des millénaires et dans toutes les cultures, il y avait vraiment un passage dur à passer, avec des scarifications faites par les adultes, avec des marques, avec des un isolement dans la forêt pendant tant de temps, après lequel l'ado rentrait, désormais il était adulte. Donc il y avait une sorte de façon de faire pour la société qui était « tu vas mourir à ce que tu es, et tu vas renaître dans un autre statut. Tu meurs en tant qu'adolescent, et tu renais en tant qu'adulte. Et désormais, tu es dans la case des adultes, désormais, tu vas avoir droit à des relations sexuelles, etc., etc. »
Comme dans la forêt
des Ronds. Oui, bah pareil. C'est pas pour rien quand même que depuis des millénaires, et dans toutes les cultures, ça a été comme ça. Et nous, progressivement, ça s'est disparu, ça. Donc il y a pratiquement plus de... Il n'y a pas si longtemps, il y avait encore des rituels qui étaient on fait le service militaire, on en chie au service militaire, et puis quand on revient, on est un homme. Ou on fait la guerre. Les bisutages, c'est un simili-rituel, ouais, mais c'est pas complètement aussi pertinent parce que d'une part, c'est pas structuré, d'autre part, souvent, c'est des gens pratiquement du même âge que toi. C'est pas véritablement, tu vois. Mais enfin, ça ressemble un peu. Il n'y a plus beaucoup de repères pour l'adolescent ou l'adolescente qui disent « Maintenant, la société me reconnaît comme étant passé du côté adulte. » Donc, progressivement, l'adolescence dans notre culture est devenue une espèce de truc interminable, sans fin, quoi. Donc, t'es ado encore à 22, 23 ans, t'habites chez tes parents, etc.
Il y a des rituels quand même dans les voyages, par exemple, les années d'ouverture, par exemple, après les études ou des choses comme ça.
Mais c'est pas des rituels proposés par la société.
C'est initiatique quand même.
Ce n'est pas des rituels proposés par la société. La société propose pas de rituels. Notre société. C'est eux qui sont obligés de s'inventer des rituels. Et alors là, le rituel, c'est souvent, par exemple, faire partie d'une bande. Et dans la bande, t'es obligé de faire des trucs vachement durs pour être autorisé à être dans la bande. Mais finalement, c'est un rituel pour passer dans la bande. Pas pour vraiment devenir adulte, quoi. Il y a rien dans la société, il y a pas grand chose dans la société qui donne un rituel vraiment... Alors, à la limite, il y a des choses qui tiennent lieu de rituel, mais c'est vraiment pas... Par exemple, avoir ses règles, c'est une sorte de rituel. Je suis passé d'enfant à adulte, mais bon, ça dépend comment c'est géré par l'environnement.
C'est un peu tôt aussi.
Et puis c'est un peu tôt.
Aux ans qu'on
fait. T'as rien à faire. Ouais. Et même ça arrive malgré toi. Donc du coup tu te dis qu'est-ce que c'est que ce foutu corps qui est en train de me faire des trucs. Ouais. Non, c'est un vrai problème, cette question de l'absence de rituel dans notre culture. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que l'adolescence dure de plus en plus longtemps, au point de vue psychique, et que, petit à petit, même le statut de l'adolescent change sociétalement. C'est-à-dire, ça devient presque un modèle pour la culture, pour la mode. La mode s'inspire très souvent de ce qui se passe dans la rue chez les ados. Alors, pour la connaissance des nouvelles technologies de l'information, hein, ben, c'est les enfants, c'est les ados qui apprennent aux adultes, ou qui sont en avance sur les adultes. Donc, ils n'ont pas vraiment besoin de s'identifier à l'adulte, en plus, ils ne le voient pas travailler. L'adulte, il va ailleurs, il part, il revient, on voit pas ce que c'est que son travail, etc. Les ados qui sont le plus vite insérés et pas trop mal dans leur peau, c'est ceux qui font un apprentissage. Un apprentissage parce que d'une part, ils ont tout de suite une prise sur le réel, ils ont des maîtres et des modèles, ils ont un début de paiement de ça, ils peuvent avoir une idée de ce qu'ils vont devenir, etc. Non, donc, si vous voulez, ils vont devoir inventer leur rituel, à défaut que la société ait structuré un parcours.
C'est un peu le permis.
Le permis de conduire, il y a des petits rituels, quoi.
Avant, tu peux pas, après, tu peux y aller tout seul.
Oui, il y a avant et après. Chaque fois qu'il y a avant et après, par rapport à la société, c'est bien. Pardon?
Le bac,
ouais. C'est à peine un rituel.
Avant, t'es étudiant.
Dans le lycée de
mon fils, il en a 100%. Oui. Oui, parce que l'école est de plus en plus, décollée de ce qu'ils font dans la vie réelle. Donc, eux, dans la vie réelle, il y a les écrans, il y a les liens avec les copains, les copines, il y a des trucs. Et l'école, bon, il y a un problème avec l'école.
Ouais.
Alors,
comment accompagner ce type de...
Il faut qu'ils aient une passion pour quelque chose. Et que de préférence, il y ait un prof qui soit passionnant. Ça peut arriver.
Ouais,
mais alors, si, mais quand ça arrive,
on en sort des
ça canalise hein. Vraiment un bon truc. Hein. Mais sinon, si ça se dit... S'ils sont souvent en maladie, qu'il y a un remplaçant, que si, que ça, etc. Sans compter toutes les familles où il n'y a qu'un seul adulte et pas deux, ou bien un des deux adultes qui est hyper dévalorisé, ou qui est absent, etc. Bon. On a vu toute l'évolution du rôle des femmes et l'impact sur le changement du statut des hommes. C'est vrai que ça devient aussi un peu un problème. C'est-à-dire souvent les pères savent pas comment se conduire. Soit ils se conduisent comme une deuxième mère, on est tellement égaux, mais du coup finalement il y a pas de différence et pour l'enfant c'est pas forcément un point de repère intéressant. Soit ils sont très copains avec leur ado comme s'ils étaient deux ados, soit ils sont ailleurs. Dans leur boulot, on les voit pas, etc. Donc c'est pas évident. Hein. C'est toute une évolution sociétale qui est problématique. T'as le fait que le travail du père ou de la mère n'est pas un modèle, parce qu'ils sont jamais là, ils sont pas là, ça se fait ailleurs. T'as pas de point de repère au niveau des rituels. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Et c'est pour ça qu'on va faire le boulot. Il nous reste la capacité pour l'adolescent ou l'adolescente à trouver une espèce de boussole interne et de capacité à traverser les choses et à faire avec.